Il faut que je mange non seulement de la nourriture de la Martinique, mais de surcroît à ça, il y a une choucroute que je dois essayer aussi directement à Strasbourg. Bonjour Rosie, c'est vous qui m'avez inspiré pour la nourriture martiniquaise et pour la choucroute alsacienne. Bonjour à la sœur Teresa. Bonjour à la sœur Bernadette. Donc encore une fois, je m'excuse si il y a du bruit, que ce soit des vibrations, il y a les rouleaux compresseurs qui passent devant la maison. Et puis il y en aura aussi tout à l'heure dans mon entrée. Et puis si les gens commencent à faire les travaux dans mon entrée, ben à ce moment-là, Néma va certainement aboyer et je m'en excuse déjà. Donc on va prier et on va débuter pour l'enseignement de ce matin. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci pour cette occasion que nous avons encore d'étudier ta parole et d'être enrichis, fortifiés, instruits par elle. Nous te demandons, Seigneur, de nous conduire, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir nos pensées à ta parole et de trouver, Seigneur, en nos cœurs, des réceptacles qui sont ouverts, vidés d'eux-mêmes, dépourvus de toute souillure, afin de recevoir pleinement et adéquatement cette riche parole que tu as pour nous encore ce matin. Bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis tous ceux qui sont connectés en direct et ceux qui nous écouteront plus tard en journée, voire même dans le futur. Que cette même grâce que tu déposes sur nous et pour laquelle nous prions ce matin, que cette même grâce, Seigneur, se manifeste dans la vie des uns et des autres. En toute chose, nous voulons, Seigneur, que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue à notre bénédiction matinale du mardi 18 mai. Aujourd'hui, on complète notre série sur les cinq femmes qui sont mentionnées dans la généalogie de Jésus au niveau de Matthieu au chapitre 10, l'évangile de Matthieu au chapitre 1, les 17 premiers versets. On veut s'arrêter là avec cette dernière personne qui est mentionnée. Et de laquelle on se méprend parfois. On lui attribue des choses qui ne sont pas et on ne comprend pas ce que certains versets veulent dire. Donc, on va analyser certaines petites choses ce matin, démystifier un peu. Et la personne qu'on étudie aujourd'hui, c'est Marie, donc la maman de Jésus. On va voir comment la tradition en a déformé. Ce qu'elle était réellement, et ce faisant, on s'est éloigné en fait du texte biblique. Mais ça sera aussi pour nous l'occasion de voir une autre femme qui ne devait pas figurer assurément dans la généalogie du Sauveur, mais qui y est et qui représente encore pour nous aujourd'hui, à l'instar de toutes celles qu'on a vues depuis une semaine ou deux, la grâce de Dieu manifestée. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu au chapitre 1. On va lire quelques versets, se remémorer un peu les dames qu'on a vues à travers les derniers enseignements. On sait qu'on a pris du retard parce qu'il y en a deux qui ont sauté à travers la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on complète donc cette série sur les femmes qui apparaissent dans la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1, on va commencer avec le verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam. Et ça continue. On va aller maintenant au verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations de la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Et on s'arrête là. On s'arrête là parce que les prochains versets vont effectivement parler de Marie, mais sans nécessairement nous révéler grand-chose sur elle. Les textes qu'on va étudier ce matin pour étayer nos explications concernant la vie de Marie vont plutôt se trouver dans le chapitre 1 de l'évangile de Luc. Les quatre évangiles sont merveilleux. Les quatre nous présentent Jésus et la vie de Jésus sous des formes différentes les unes des autres. Mais Luc est un peu l'historien des évangélistes, l'historien de parmi les quatre évangiles qui ont été écrits. Et l'évangile de Luc nous amène donc plus en détail des choses de la vie de tous les jours, des événements qui se sont succédés dans la vie de Christ, et notamment, dans ce cas-ci aussi, de la naissance de Jean-Baptiste depuis sa maman Élisabeth et son papa Zacharie, mais aussi de l'arrivée de Christ, de Jésus, le Messie, qui va arriver conçu par le Saint-Esprit auprès de Marie, sa mère, et auprès de celui qui va jouer un rôle paternel auprès de Jésus, enfant, en tant que 100% homme, celui qui va être marié donc avec Marie. Joseph. Et donc, arrêtons-nous sur Marie. Simplement pour enlever peut-être le côté un peu gracieux qu'on donne au nom de Marie, étant donné que la tradition en a fait ce qu'ils appellent eux-mêmes, ou ce que la tradition appelle elle-même une sainte, voire même dans certains cas extrêmes, certains vont amener Marie à cet état où elle est pratiquement co-sauveur de l'humanité. Elle est tellement honorée et tellement dignifiée par la tradition que certains fragments de l'Église catholique notamment, mais aussi certains groupes sectaires qui en sont maintenant séparés, vont rendre un culte à Marie qui dépasse même la logique de leur théologie en faisant d'elle pratiquement une égale au Sauveur. Ce qui est tout à fait faux. Marie est une femme comme toutes les autres et on va l'expliquer ce matin. Marie n'avait rien de particulièrement spécial qui faisait qu'elle devait être la récipiendaire ou celle qui allait donner naissance au Sauveur, et que tout cela a été fait par grâce, uniquement par grâce. Alors voyons tout d'abord les obstacles au fait que Marie soit mère de Jésus. Dans Luc au chapitre 1, on va se promener dans différents versets ce matin. Je vais réinstaller ma tablette différemment. Donc, dans Luc au chapitre 1, le verset 34 est assez clair, où on nous dit « Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Un peu plus tôt, lorsque l'ange Gabriel va apparaître, on nous dit dans le verset 26 et 27, dans le chapitre 1 de Luc toujours, « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. » Le premier obstacle que Marie a pour être dans cette linéalogie, ou dans cette généalogie plutôt, de Jésus et du Sauveur, c'est tout d'abord qu'elle est vierge. Comment s'est opérée la conception de Jésus dans le ventre de cette vierge? Je ne veux pas rentrer dans des spécifications parce que, un, la Bible ne le dit pas et parce que, deux, je n'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est que la Bible nous dit que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est venu sur Marie, l'a enveloppée, et qu'elle est devenue enceinte par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Je n'en sais rien, comment scientifiquement la chose s'est passée. Mais je ne sais pas plus comment Dieu a créé, juste par sa parole, les cieux et la terre, les oiseaux, les animaux, les poissons, comment il a créé les astres. Je ne sais pas comment, juste au son de sa voix, comment l'homme a été créé, comment Dieu a insufflé la vie dans Adam, comment il l'a fait dormir, il a pris une côte et que de cette côte, il a façonné une femme qui est devenue Ève. Je n'en ai aucune idée. Mais en tant que croyant au Dieu de la Bible, je crois effectivement que ce que la Bible me dit est vrai. Et que miraculeusement, ce Dieu omnipotent, qui est capable de toutes choses, a donc effectivement créé le monde d'un vide, créé le monde alors que rien n'existait, qu'il est effectivement capable, donc, des millénaires plus tard, de créer cet enfant Jésus dans le sein d'une femme vierge qui s'appelle Marie. Comment il l'a fait? Je n'en ai aucune idée. Probablement et assurément que lorsqu'on sera là-haut, c'est le genre de choses aussi que nous comprendrons. Mais dans la logique humaine, la seule chose que je peux... la seule raison que je peux donner, ou la seule explication plutôt que je peux donner, c'est le fait que notre Dieu était capable de créer l'univers de rien. Il est donc effectivement capable de mettre un enfant dans le sein de Marie pour que Marie puisse enfanter le Sauveur. Donc le premier obstacle au fait que Marie puisse apparaître dans la généalogie de Jésus, c'est à la base qu'elle est vierge. Mais ça aussi, c'est une belle chose. Ça aussi, c'est une chose merveilleuse pour toi et pour moi. Dieu a utilisé Marie à l'instar de Marie et à l'instar des capacités de Marie et à l'instar des capacités propres à Marie. Et Dieu l'a utilisé comme le réceptacle de cet enfant, comme le réceptacle qui allait abriter pendant un certain temps Jésus en tant qu'enfant à naître. Et cela veut dire que Dieu peut aussi t'utiliser en dépit de tes limites et en dépit des capacités que tu as qui sont réduites. Et ça, c'est une chose merveilleuse. De savoir que d'un vase vil, sans force, simple comme toi et moi, Dieu peut accomplir encore aujourd'hui des merveilles. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va prendre une femme vierge aujourd'hui et la faire enfanter. Il y a eu un Jésus conçu par le Saint-Esprit. C'était le seul qui devait avoir lieu et c'est le seul qui a eu lieu et c'est le seul qui sera comme ça pour le restant de l'humanité. Toutefois, spirituellement, Dieu peut susciter des choses chez toi en dépit de tes limites, en dépit de tes capacités qui sont bloquées, en dépit de la pauvreté qui t'habite, Dieu peut effectivement accomplir de grandes choses pour toi et pour moi. Je disais, on va démystifier le nom de Marie. Et j'ai oublié de vous expliquer ce que ça voulait dire. Marie veut dire amère et Marie veut dire rebelle. Donc aujourd'hui, on mystifie un peu ce nom-là. Il y a plein de sœurs qui ont un double prénom, dont un des deux prénoms est Marie. Parfois, on a un nom composé, un prénom composé, en se disant, ben, c'est tellement noble de s'appeler Marie. Marie, à la base, vient de ce terme hébreu Mara, qui était cette source amère qu'on retrouve dans l'histoire du peuple d'Israël avec la sortie d'Égypte. Et cette source qui est amère, qui va être rendue douce. Myriam, c'est la même chose. Myriam, Marie, c'est des synonymes et ça veut dire aussi amère et rebelle. Et Myriam, la sœur de Moïse, a tout à fait manifesté non seulement son amertume envers la femme de Moïse, son amertume envers la place de Moïse à un moment donné et aussi sa rébellion envers Moïse. Et voilà pourquoi à un moment donné, elle a été châtiée. Donc si vous appelez votre enfant Marie, sachez au moins ce que ça veut dire. Ça veut dire rebelle et amère. C'est pas nécessairement le plus beau des noms qui apparaissent. Donc le premier obstacle, Marie est vierge, mais pour nous ça veut donc dire que en dépit de nos limites et en dépit de nos capacités qui sont réduites, Dieu peut malgré tout intervenir. Le deuxième terme concernant les obstacles, c'est Marie qui va en parler lorsqu'elle va aller visiter sa cousine Élisabeth et que celle-ci, lorsqu'elle va entendre sa voix, elle va nous dire que l'enfant qui est dans son sein se met à se réjouir juste au son de la voix de Marie et elle va confirmer prophétiquement que Marie est enceinte du Sauveur parce qu'elle va dire comment la femme qui abrite ou qui va donner naissance à mon Sauveur, vient-elle me rendre visite? Et elle est honorée de ce privilège qu'il y a là. Et lorsque Marie va entendre sa cousine faire ses oracles prophétiques à son égard, elle va dire que Dieu l'a remarqué dans sa bassesse. Regardez le verset 46, 47 et 48. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Donc, le Seigneur a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Bassesse, c'est le terme grec tapeinosis. Tapeinosis, pour ceux qui prennent des notes, T-A-P-E-I-N-O-S-I-S, je répète le terme, tapeinosis, T-A-P-E-I-N-O-S-I-S. Et la bassesse, ici, veut dire l'indigence. Ça veut dire que Marie n'était pas simplement de condition modeste, mais c'était encore plus bas que modeste. En fait, lorsqu'on regarde ce terme tapeinosis, on nous parle donc d'un état de précarité profonde. Ce qui est merveilleux aussi, c'est que en dépit de la précarité de notre situation, en dépit des ressources qui étaient, lorsqu'on a parlé de la Vierge qui était limitée, en dépit de la profonde indigence, précarité dans laquelle nous pouvons nous trouver, Dieu est malgré tout capable d'intervenir. Je rappellerai simplement ce que j'ai dit tout à l'heure sur la création de l'univers. D'un vide total, Dieu a créé tout ce qui existe. Dieu n'a pas été limité par le vide ambiant. Dieu a créé du vide, il a créé tout ce qui existe. Alors même dans le vide que peut représenter ta vie, même dans le néant que peut représenter ton existence. Si cette vie, si cette existence est placée entre les mains de notre Dieu, sous le contrôle de notre Dieu, il est encore aujourd'hui capable de créer des merveilles et de susciter sa gloire à travers même le vide qui est le tien ou qui est le mien. Alors ces obstacles qui à la base sont effectivement des freins à ce que le Messie vienne d'une telle femme sont aussi pour nous une annonce de bénédiction, sont aussi pour nous une glorieuse énoncé qui nous permet d'avoir la foi, de nous réjouir que malgré nos conditions précaires, malgré nos conditions limitées, Dieu est capable de faire de grandes choses. Et c'est un principe qui revient régulièrement dans la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de Bethléem, la ville dans laquelle on annonce que Jésus va naître, on nous dit Bethléem, la plus petite les villes de Juda, la plus petite parmi les villes de Juda. En fait, Bethléem, on va même dire, quelque chose de bon peut-il sortir de Bethléem? Lorsqu'on regarde Marie et qu'on regarde son état, on se dit, mais c'est pas de là que devrait sortir un roi. Un roi devrait sortir des grands palais, des grandes officines, du royaume d'Israël. Et voilà pourquoi lorsque Jésus va être présenté à la foule, lorsque Jésus va se présenter comme le roi qu'il est, les gens ne vont pas le reconnaître parce que la chose qu'ils attendaient, ce n'était pas un leader religieux, ce n'était pas un leader dans le type que Jésus devait être, mais c'est un leader que les gens espéraient, un leader politique. Voilà pourquoi le jour de la crucifixion, on va préférer Barabbas à Jésus, parce que Barabbas est un leader social, est un révolutionnaire, quelqu'un qui avait tenté d'élever ou de lever le peuple juif contre l'Empire romain et contre César. Et faisant ces manifestations-là, les gens ont vu en lui le type de leader qu'ils espéraient. Lorsqu'on regarde l'histoire de David et l'histoire de Saül, Saül était le choix des hommes, David était le choix de Dieu. Saül, on s'est basé sur son apparence, sur sa figure, sur sa grandeur, sur sa force physique pour dire « voilà quelqu'un qui ferait un bon roi ». Dieu a regardé David qui était tout seul, oublié, perdu, abandonné dans la prairie avec ses brebis. Même son père n'ose même pas le présenter au prophète qui vient oindre le prochain roi. Il fait passer les 7 autres fils avant lui et c'est cet oublié dans les champs qu'on ne présume pas être de la qualité d'un roi qu'on va aller chercher. Donc, dans la pensée de Dieu, c'est récurrent comment il prend les choses vides, les choses faibles pour confondre les sages, les choses faibles pour confondre les fortes. Donc, ne sois pas étonné, même dans ta condition indigente, Dieu veut, Dieu peut et Dieu va t'utiliser à sa gloire. Alors, malgré ces obstacles, il y a des raisons pour lesquelles Dieu va utiliser Marie. La Bible nous dit dans Luc au chapitre 1, toujours le verset 28, on va faire ressortir quelques points. Le verset 28, l'ange va entrer chez elle, donc chez Marie, et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, toi à qui une grâce a été faite. » Lorsqu'on regarde la prière traditionnelle qui a été créée par la suite pour Marie, on dit « Marie, femme pleine de grâce ». En fait, le verset ici nous dit clairement « Il y a une grâce qui t'a été faite ». Et le terme « grâce qui a été faite », c'est le terme « caritu »,« caritu » et non « caris »,« caritu », C-H-A-R-I-T-O-O, je répète, C-H-A-R-I-T-O-O, et caritu veut dire rendre acceptable. Quelqu'un que nous rendons acceptable. Mais si on rend quelqu'un acceptable, c'est qu'au départ, cette personne n'était pas acceptable. Elle a été rendue acceptable malgré et en dépit de qui elle était. Même chose pour toi et pour moi. Nous devenons, nous aussi, caritu, nous devenons aussi, nous, acceptables parce que Dieu nous rend acceptables. Marie n'avait pas les préconditions qui méritaient de recevoir le Sauveur, qui méritaient de concevoir le Sauveur. Marie a été rendue capable, a été rendue acceptable. Alors pour toi aussi et pour moi aussi, lorsque Dieu se manifeste à travers moi et à travers toi, cela n'est nullement et aucunement dû à ta personne et à ma personne, c'est simplement dû au fait que je suis rendu acceptable, qu'une grâce m'a été faite. Non seulement nous sommes des graciés, mais une grâce nous a été faite. Il y a un privilège, il y a un cadeau, il y a une chose qui se manifeste en dépit de nous, que Dieu fait par lui-même, volontairement et délibérément, qui nous rend acceptables à ses yeux. Aucun d'entre nous ne peut être juste par lui-même. Aucun d'entre nous ne peut se rendre juste par lui-même. Lorsqu'on parle de Marie qui a reçu une grâce, une même grâce est accessible pour toi et pour moi. Nous pouvons aussi, toi et moi, je vais prendre une gorgée. Désolé. Nous pouvons nous aussi expérimenter le caritu, donc une grâce qui nous est faite pour devenir acceptable. La deuxième chose du verset 28 nous dit, l'ange entrant chez elle, il dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Et lui dit, « Le Seigneur est avec toi. » Le Seigneur est avec toi. Une grâce t'a été faite, donc tu as été rendu acceptable. Et quand il nous dit « le Seigneur est avec toi », l'expression « être avec quelqu'un », c'est le terme grec « meta », M-E-T-A, qui veut dire « être au sein », »,« être parmi » ou « entourant quelqu'un ». Et on va s'arrêter ici ce matin, on va aller dans d'autres points demain. Mais ce qu'on voit ici, c'est donc que non seulement une grâce a été faite à Marie, qui lui fait qu'elle est rendue acceptable, mais acceptable pourquoi? Acceptable pour que Dieu puisse être avec elle. C'est le même privilège, la même grâce qui nous est faite à toi et à moi. Nous étions des pécheurs qui méritaient la condamnation éternelle, qui méritait la déchéance pour l'éternité, et une grâce nous a été faite. La grâce qui nous a été faite, c'est que le Sauveur nous a été donné, et que ce Sauveur s'appelle Emmanuel, Dieu est avec nous. Ça veut donc dire que tout ce que Marie a pu expérimenter ne venait pas d'elle, mais venait d'une grâce manifestée par Dieu à son égard, et qui faisait principalement comme première conséquence que Dieu pouvait demeurer avec elle. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Regarde ta vie un peu, pense à ta condition de jadis, pense à ta nature pécheresse. Un vase avec tous ses aléas lié au péché, un temple avec tous ses aléas liés au péché, est maintenant rendu digne par le sang et la grâce de Jésus, qui fait qu'aujourd'hui, toi et moi pouvons être l'habitation du Saint-Esprit. Nous aussi pouvons être le méta du Saint-Esprit, au même titre où Marie va entendre le Dieu est avec toi, nous aussi, nous pouvons entendre « Dieu est avec vous » parce que nous sommes effectivement devenus temple du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu que rien ne poussait Marie à être celle qu'elle a été et rien ne favorisait Marie à être ce réceptacle pour cet enfant qui allait naître. Parce qu'elle était vierge et parce qu'elle était de condition indigente, extrêmement précaire. Alors Dieu ne fait pas, Dieu ne s'arrête pas à ta condition d'aujourd'hui. Dieu peut autant se manifester avec toi qui sors d'un palais ou avec toi qui sors d'une chaumière bien humble. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser que tu viennes d'un penthouse du centre-ville d'une des méga-villes de cette terre ou que tu sors d'une humble hutte de je ne sais trop où dans des pays en voie de développement. Peu importe d'où tu viens, peu importe quelle est ta condition, si précaire soit-elle, que tu arrives d'une cabane en bois rond du fin fond de la forêt intense du nord du Québec, ça ne me dérange pas. Dieu veut, Dieu peut, Dieu désire t'utiliser. Et dans cette condition précaire, ce n'est nullement un frein pour le Seigneur. La seule chose qui est importante, c'est effectivement que nous comprenions que tout ce que nous parvenons à faire, tout ce à quoi nous sommes appelés, est une grâce qui nous est faite par Dieu, qui nous rend caritou, qui nous rend acceptable. Ça veut donc dire que toi et moi aujourd'hui, malgré notre condition pécheresse d'hier, malgré notre condition condamnable d'hier, nous sommes rendus aux yeux de Dieu acceptables. Nous sommes cette offrande qu'il peut accepter. Nous sommes ce vase qu'il peut accepter d'utiliser parce que rendu un noble, parce que rendu propre, parce que rendu saint entre les mains de Dieu. Et ça, ce n'est pas une condition que nous avions préalablement. Ce n'est pas dû à nos efforts, ce n'est pas dû à nos tentatives de, c'est dû à la grâce et à la grâce unique de Dieu. Et de surcroît à cela, Dieu veut maintenant non seulement que nous soyons caritou, rendus acceptables, mais que nous soyons aussi méta par rapport à son esprit, que l'esprit de Dieu puisse être avec nous, que l'esprit de Dieu puisse t'habiter, puisse m'habiter. Pense un peu, cet esprit qui a créé tout ce qui existe, cet esprit qui a la puissance de faire les choses les plus grandioses que l'histoire de l'homme n'a pas encore vu jusqu'à aujourd'hui, cet esprit capable de toute chose, cet esprit tout puissant, omniprésent, omnipotent, omniscient, cet esprit-là peut habiter en moi, le Saint-Esprit peut habiter en moi. Pas parce que j'en suis digne, mais parce qu'une grâce m'a été faite. Et demain, on continue donc notre étude sur Marie pour poursuivre un peu cette démystification de la vie de Marie. Marie n'était pas juste lorsqu'elle a été visitée. Dieu l'a rendue acceptable et Dieu veut te rendre aussi acceptable. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Et on va prier pour rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous comprenons que nous ne sommes rien, que nous ne pouvons rien et que nous n'avons rien sans toi. Tout ce que nous sommes, tout ce à quoi nous pouvons aspirer, tout ce que tu pourrais faire à travers nous ou qui pourrait être fait à travers nous, c'est parce qu'une grâce nous a été faite. Cette grâce d'être rendu acceptable, caritou, aux yeux de Dieu. Seigneur, j'ai été rendu acceptable à tes yeux. Alors que l'humanité peut me mépriser, alors que l'humanité peut me rejeter, alors que l'humanité peut détourner le regard de moi, Seigneur, tu me rends acceptable aux yeux qui importent ton regard. Tes yeux. Seigneur, ce que disent les hommes de nous Ça peut nous affecter, ça peut nous blesser, mais quand on y regarde, et parfois ça peut même nous réjouir, mais quand on y regarde avec un regard biblique, posé dans ta parole, on se rend compte, Seigneur, que peu importe ce que disent les gens autour de nous, ce qui importe, c'est ce que toi tu dis. Et le regard que tu poses sur nous, c'est un regard, Seigneur, qui nous voit ayant été rendus acceptables. Je peux donc être accepté par Dieu. Merci, Seigneur. Et non seulement je peux être accepté, mais je peux expérimenter effectivement Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec moi. Je peux expérimenter le méta. Dieu qui m'environne, Dieu qui m'habite, l'Esprit de Dieu qui habite un vase précaire, faible, humble, pas assez digne même pour le roi et la gloire qui t'habite. Mais là encore, c'est une grâce que dans un vase si faible comme celui que nous sommes, le Dieu de toute gloire, l'Esprit du Dieu de toute gloire, décide délibérément d'habiter. Merci Seigneur. Seigneur, aucun président pourrait nous visiter et ça serait plus glorieux que toi. On se réjouirait si un président, si un premier ministre, même si un député, voire si un conseiller municipal venait frapper à notre porte pour nous dire « j'avais envie de vous visiter ». On serait heureux, on serait honoré, mais Seigneur, ça ne se comparera jamais au fait que toi, tu veuilles habiter en nous. Merci Seigneur de cette grâce. Merci de ce privilège. Seigneur, j'espère que ces paroles qui ont été échangées ce matin vont greffer un sourire sur les lèvres et le visage de ma sœur et de mon frère tout au long de cette journée, en nous rappelant tous et chacun qu'une grâce nous a été faite, qu'un sauveur nous a été donné, qu'Emmanuel vit parmi nous et que nous sommes son temple, le temple de son esprit. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi toute la majesté. Nous t'avons prié dans ton précieux nom, Jésus. Amen. 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 Une bonne parole ce matin, une parole encourageante. Alors mon frère, ma sœur, j'espère que ce matin, si tu t'es levé un peu tristounet, un peu abattu de ta condition, j'espère que ce matin tu repars après cette exhortation et cette bénédiction avec un sourire, avec un zèle renouvelé, avec une joie renouvelée. Dieu fait fi de ta condition précaire pour éclater dans toute sa gloire. Une grâce t'a été faite. Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. On se retrouve demain matin pour notre prochaine bénédiction matinale et on continue notre étude sur Marie, une autre de ces cinq femmes qui ne devaient pas apparaître dans la généalogie du Christ, comme nous ne devions pas apparaître dans le livre de vie. Bon, je m'arrête là, sinon je pourrais continuer jusqu'à demain matin. Donc, que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain matin. Bonne journée à tous.